Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est l'un des plus grands musiciens et compositeurs du monde. Beethoven est mort il y a 190 ans. On dit plein de choses sur lui. On dit que c'était un génie sourd, un homme tumultueux, pas facile en amour, pas facile à vivre. Avec l'écrivain Elisabeth Brisson, on va observer, écouter aussi son travail et raconter sa vie. Vous, Beethoven, vous l'avez découvert comment? Parce qu'on se souvient en général de la première fois qu'on écoute du Beethoven.
Je suis né dans une famille où Beethoven était à l'honneur et qui mes parents étaient des amis des Massins qui faisaient la biographie de Beethoven quand j'étais petite, donc c'était la biographie.
On va se mettre d'accord d'ailleurs sur la manière de prononcer son nom de famille. On dit Beethoven ou Beethoven?
Ah, c'est comme on veut parce que c'est ni l'un ni l'autre. J'ai mon amie allemande qui travaille à la Beethoven House à Bonn. Elle n'arrive pas à me faire dire comme il faut dire Beethoven.
Ah, il faut accentuer le O.
Beethoven. Ah, d'accord. Donc nous, on peut. Donc évidemment, il y a des gens qui sont horrifiés parce qu'on dit Beethoven. D'autres qui disent Beethoven. Moi, j'ai toujours entendu Beethoven. Alors bon. Vous pouvez faire comme vous voulez.
Ah, bah c'est sympa.
Je vais garder mon bon vieux Beethoven.
Ça nous rassure. Alors on va remonter au tout début. Il naît où et quand?
Il naît en décembre 1770, à Bonn. Alors, je n'ai pas donné la date exacte parce qu'on ne connaît pas la date exacte de sa naissance, on connaît sa date de baptême. Mais surtout, il est interdit de faire des suppositions parce qu'il y a des gens qui regardent les astres et qui veulent donc connaître encore mieux Beethoven grâce à l'interrogation du ciel.
Et donc de toute façon, on n'a pas la date du baptême. Donc si, c'est on n'a pas la date de naissance.
On n'a pas la date de naissance, mais ouais. C'est le 16 décembre qu'il est né à Bonn, qui était une ville sur le Rhin. Et qui était une ville très active d'ailleurs à l'époque et qui a la particularité d'être la ville de résidence du prince électeur de Cologne. Parce que ça, c'est en Allemagne, il y avait des princes électeurs, ceux qui choisissaient l'empereur, et un de ces princes électeurs était à Cologne et il avait sa résidence, c'est-à-dire son palais et ses résidences d'été aussi à Bonn.
Beethoven naît dans quel milieu? Un milieu d'artistes?
Eh bien oui, il naît dans le milieu d'artistes de cette résidence musicienne. Mmh. Son père étant chanteur dans la chapelle de la cour électorale et son grand-père était, au moment où il est né, il était encore en vie, et son grand-père était maître de chapelle de l'orchestre donc et des activités musicales de cette cour. Et lui, il a baigné dedans. Mmh.
C'est son père qui découvre le talent du jeune Beethoven?
Oui, sans doute. Son père était chanteur, très actif d'ailleurs. On avait dit beaucoup de mal de son père, mais son père était très très actif. Et il donnait des leçons. Il a donné des leçons aussi à son petit garçon. Et il a découvert que peut-être c'était pas mal, qu'il était assez doué.
Mais c'est un enfant star, Beethoven? C'est-à-dire que son père va le pousser un petit peu, va le pousser sur le devant de la scène?
Alors évidemment, il y a toujours le modèle de Mozart. Le modèle de Mozart, et c'est sûr que le Johannes, papa, il avait envie. Alors il a essayé dans un concert à Cologne où il a présenté son petit garçon comme ayant 6 ans, mais en fait il en avait 8 et puis ça n'a pas eu beaucoup de suite. Hein.
Pourquoi est-ce que Mozart est devenu célèbre à 6 ans, c'est ça?
Oui, parce qu'il était petit garçon et c'était bien de faire en sorte que ce soit un petit génie.
Alors vous racontez l'histoire de Beethoven dans cette biographie, Elisabeth Brisson, qui est publiée aux éditions Ellipse, qui vient de paraître il y a quelques semaines. Donc on peut dire que cette tentative paternelle de pousser le jeune Beethoven à 8 ans sur le devant de la scène, c'est plutôt un échec. Comment ça se passe après?
Alors dans la tête du papa, je ne sais pas si c'est un échec ou pas, mais en fait le jeune Ludwig, il le retire de l'école, il a été à l'école jusqu'à 10 ans pour le consacrer à la musique, et il lui cherche des maîtres qui sont ses amis, parce que c'était un très très grand, un monsieur qui était très sociable, il avait plein d'amis qui étaient chanteurs, instrumentistes, enfin dans le milieu de la cour électorale. Et là il va finalement trouver un musicien, homme de théâtre, régisseur du théâtre, qui arrive depuis Leipzig à Bonn et qui s'appelle Neff.
Et c'est lui qui va former Beethoven?
Et oui, il va se rendre compte que c'est un petit génie, il va le publier d'ailleurs, il va le former, et en publiant les avantages, enfin les mérites de son jeune élève, il dit qu'il connaît très très bien le clavier bien tempéré de Bach. Alors aussi bien pour jouer ces partitions-là que pour composer. Donc il a appris en même temps la composition et le jeu pianistique.
À quel âge Beethoven va composer ses premières variations ?
Eh bien, avec son maître Neff, il va commencer, il a 12 ans, il va les publier sur des variations sur un air à la mode, on va dire.
Alors, 9 variations sur une marche de Dressler, par exemple. Écoutez à quoi ça ressemble.
Il a quel âge quand il compose ça ou...
Il a 12 ans.
12 ans, bon.
Il a appris, ça c'est l'air, c'est le thème, après ouais. Il va varier.
Alors justement, une variation, c'est quoi pour... On pose les questions vraiment de Béotien, hein. C'est oui, prendre c'est... un air... De base et le faire évoluer.
Et lui donner des ornementations ou garder sa structure et lui changer de figure.
Ce qu'on appelle une reprise aujourd'hui ?
Non. Ah, peut-être aujourd'hui. Non, je ne crois pas. C'est à partir d'un thème, on brode autour, si vous voulez.
D'accord. Quand
on l'étoffe ou on lui donne un autre rythme.
Mais... Ça veut dire que Beethoven va vivre très jeune de son art, de la musique ?
Oui, parce que son maître Neff l'intègre dans la chapelle électorale. Il va d'abord être son aide à l'orgue. Et puis ensuite, il va être musicien de la cour. Il va jouer de l'alto, d'ailleurs, dans l'orchestre. Et il va être répétiteur aussi, ce qui s'appelait cymbaliste. C'est-à-dire qu'il est répétiteur des chanteurs, ce qui lui permet de connaître tout un répertoire du théâtre, parce que c'était très actif, bon, ouais. Époque-là, jusqu'au moment où le prince électeur est mort et qu'il y a eu une vacance de théâtre, etc. Mais enfin, il y a quand même eu une activité théâtrale très importante avec des pièces de Schiller, par exemple. Il a dû découvrir les brigands à ce moment-là.
Et Elisabeth Brisson, vous nous disiez que le papa de Beethoven avait tenté de suivre l'exemple de Mozart. Est-ce qu'ils se sont rencontrés, ces deux géants de la musique ?
Eh bien, le jeune Beethoven aurait bien aimé rencontrer Mozart. Il est allé à Vienne au printemps 1787 pour rencontrer Mozart, mais il a été très rapidement rappelé à Bonn parce que sa maman était malade et il n'a pas rencontré Mozart. Donc on raconte beaucoup qu'il aurait rencontré Mozart, mais pas du tout. Il ne l'a pas vu, il a été évidemment très déçu de ne pas avoir rencontré Mozart, mais il ne l'a pas rencontré, mais il connaissait bien sa musique.
Vous écoutez RTL.
Et on continue de vous raconter l'histoire, la vie de Beethoven, mort il y a 190 ans, avec notre invité, l'écrivain Elisabeth Brisson. On écoute la lettre à Élise. Est-ce que c'est...
Qui ne l'a pas joué au piano ?
Est-ce que c'est du Beethoven ?
Eh bien, on l'a attribué à Beethoven. En fait, le noyau, on va dire que c'est du Beethoven, c'est des bribes de bagatelles qui ont été mises en forme par un musicologue vers les années 1860, qui s'appelle Ludwig Nohl, et il a présenté ça comme étant une œuvre qu'il venait de découvrir de Beethoven, mais justement, on ne retrouve pas le manuscrit.
Mais quel intérêt de faire ça, en fait ?
Eh bien, c'est d'avoir un scoop.
Ah oui.
Déjà, en 1860, on cherchait
oui,
le scoop.
Oui, même le lendemain de sa mort, oui, aussi. Mais alors, dernière pensée de Beethoven.
Quand on dit la lettre à Élise de Beethoven, c'est une erreur, alors, ou on peut continuer de le dire ? Faites ce que vous
nous,
voulez.
Nous, on dit la lettre à Élise. Ouais. En allemand, ils disent pour Élise, für Élise. Qui était cette Élise ? Tout le monde, il y a plein de conjectures là-dessus. On ne sait pas du tout qui c'est. Et alors, le noyau, je vous dis, c'était de lui, mais il ne l'aurait peut-être pas mise sous cette forme-là.
Mais c'est amusant de voir toutes les légendes qui se sont tissées autour de l'histoire de Beethoven. Parce que, par exemple, en préparant l'émission, moi, j'ai lu, alors je ne sais plus où, sur Internet, mais c'était pas fiable, que Mozart et Beethoven s'étaient rencontrés et que Mozart lui avait fait jouer un morceau, etc. Ça, c'est complètement bidon, puisque vous nous disiez, il n'a pas pu le voir.
Non, parce que ça a été un tellement grand personnage. Il était, Beethoven, il était tellement hors norme, je veux dire, que pour l'appréhender d'une certaine façon, il a fallu le broder autour de sa vie des légendes qui sont des légendes et qui démarquent des réalités d'ailleurs et aussi des romans de jeunes génies parce qu'au XVIIIe siècle on crée des romans de romanciers ou de
ah oui on les mettait en valeur
non mais c'est des fictions
oui.
Et donc comme pour Beethoven on manquait de sources et eh bien on a collé les fictions
mais comment vous avez travaillé vous alors Elisabeth Brisson, pour faire votre livre Beethoven aux éditions Ellipse.
Comment j'ai travaillé?
Très compliqué.
Oui, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup écrit sur, des scientifiques actuellement à Bonn et à Vienne, mais surtout dans sa maison de Bonn, il y a des chercheurs remarquables qui justement montrent tous les vides, tout ce qui a été comblé par ces faux récits. On va rechercher quand on n'a pas de pièces qui peuvent prouver qu'il a rencontré Mozart, par exemple. On dit qu'il n'a pas rencontré. Il n'y a aucune preuve matérielle, aucune lettre, aucune indication dans un journal, rien. Donc on va rechercher ces sources-là.
On dit aussi qu'à la mort de Mozart, donc en 1791, le maître de Mozart, Haydn, va s'occuper de Beethoven. Ça, c'est vrai ?
Alors là, s'occuper, c'est peut-être pas tout à fait le mot. Mais
le faire travailler.
Oui. Alors, quand Haydn va aller de Vienne, il va aller à Londres, il va passer par Bonn parce qu'il est avec un ami qui est originaire de Bonn. Et là, le prince électeur va être trop content de montrer son petit génie Beethoven, quand même. Et Haydn va remarquer que, quand même, c'est pas n'importe qui. Et alors là, va intercéder un ami du prince électeur qui s'appelle le comte Waldstein et qui va lui le dire à son prince électeur. Il va lui dire, il faudrait peut-être aller faire envoyer Beethoven se former un peu mieux à Vienne auprès de Haydn. C'était une pratique normale à l'époque d'envoyer les très bons peintres à Rome ou les très bons musiciens à Vienne. C'est pas réservé à Beethoven. Mais là, et donc Waldstein va conseiller au prince électeur qui était un des frères de l'empereur aussi. C'était des
personnages importants. Oui. Oui. Donc il dit envoyer ce petit génie Beethoven à Vienne pour travailler
avec Haydn.
Et ça va se passer comment cette collaboration alors?
Ça va se passer très bien. Oui. Alors là aussi, il y a plein de légendes qui disent que Haydn n'était pas content, jaloux, etc. Mais en fait, Beethoven va beaucoup apprendre de Haydn. Et en partie, c'est une chercheuse de la Beethoven House actuellement qui a montré cela, Julia Hong, qui a montré que les leçons, c'était des leçons de composition. Et il lui apprenait à organiser ses idées pour composer comme à l'époque.
Donc on passe des variations qui sont peut-être que je me trompe, les premiers exercices finalement de Beethoven, à sa première symphonie. Écoutez. Première symphonie de Beethoven, il a quel âge à peu près? On est en 1790, je crois.
Ah non.
On est plus tard?
Oui, il a, en 90, il a peut-être essayé de faire un bout de symphonie, mais il n'a pas continué. Mais là, c'est vers 1800, il a bientôt 30 ans. C'est opus 21. Le premier opus qu'il ait publié, c'est en 1795. Et il avait déjà publié des œuvres, mais il a décidé que c'était ses trios pour piano, violon et violoncelle qui seraient opus 1. Bien, ma première œuvre que je me reconnais dedans.
est-ce qu'il accède déjà à une forme de notoriété?
Alors, en tant que pianiste, oui. En tant que pianiste à Vienne, et il est excellent pianiste, et avec beaucoup de concurrence. Il écrit à sa petite amie, à Léonore, qui restait à Bonn, et dit, je mets plein de difficultés parce que ceux qui vont me copier, eh bien, ils ne pourront pas... Ils ne pourront pas les interpréter. T'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous en passer. Mais c'est pour mes concurrents qui sont des ennemis mortels.
Je ne crois pas qu'on l'ait dit, Elisabeth Brisson, mais de quel instrument il joue, Beethoven?
Alors, il a le clavier bien tempéré, c'est du piano. Donc, c'est surtout le piano. Mais il a aussi fait du violon. Il a pris des leçons de violon et il a été altiste aussi dans l'orchestre de la cour électorale.
Alors, Beethoven, un génie, mais un génie malade. Il a beaucoup de problèmes de santé. C'est ce que dit aussi la légende. Est-ce que l'histoire...
Oui, mais il n'est pas le seul. Je veux dire qu'à cette époque-là, on a beaucoup de problèmes de santé. Sa maman est morte de phtisie, de tuberculose. Et lui, il a été longtemps persuadé aussi qu'il allait être comme sa maman, qu'il ne se sentait pas bien. Mais il y a aussi Alors, il y a tous les modèles qu'il avait, les modèles à la Werther, les modèles du mélancolique, que plus on est malade, plus on est génial.
Ce qu'on plaisait, c'est ce que vous voulez dire?
Pas forcément se complaire, mais ça le mettait dans une posture actuellement. Mais c'était vrai aussi, il a des très bons amis qui sont mort très jeune. C'était quand même courant à cette époque-là. Et alors, il avait effectivement, c'est un grand créateur, je crois qu'il faut voir ça comme ça aussi. Tous les grands créateurs, ils sont très angoissés. Et ça se portait sur son ventre. Il a eu pendant toute sa vie des coliques et des difficultés. Enfin, oui, il avait mal au ventre, comme on dit mal au ventre, quoi, je veux dire. Et alors, à un moment, c'est vers 30 ans qu'il a commencé à se sentir qu'il n'entendait plus très, très bien. Il a pensé que c'était en relation avec ses maux d'abdomen. On ne sait toujours pas exactement ce qu'il a eu, d'où provient cette surdité, mais elle n'a fait que croître. À part, il avait 30 ans, et c'était en 1800.
Donc c'est très jeune. Comment il va s'en sortir de cette surdité? Est-ce que il en parle? Est-ce qu'il la cache?
Alors justement, il la cache. Ouais. Et il va l'avouer, on peut dire que c'est un aveu, à ses deux meilleurs amis auxquels il écrit en 1801, surtout n'en parle pas autour de toi. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que ça le gêne pour sa vie sociale, parce qu'il n'entend plus bien, il se met au premier rang au théâtre pour entendre mieux, par exemple, mais ça l'effleure jamais pour sa vie de compositeur.
Mais ça ne le gênait pas. Il réussit. Alors, la preuve.
Il entendait la musique dans sa tête.
Il a réussi à composer.
C'est ça qui est extraordinaire. Alors tout compositeur entend. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand même, il a créé des sons inouïs qu'il a entendus dans sa tête, quoi, disons, qu'il a composé, pas du tout intellectuellement en plus. Il était passionné par la composition, par les combinaisons sonores, et qu'il devait s'imaginer. D'ailleurs, plusieurs fois, on a dit « Oh ouais, ça, c'est la musique d'un sourd. Après, c'est inaudible parce qu'en fait, il n'entendait rien.
» Moi, j'aimerais bien être un sourd qui compose comme lui. Allez, on va vous raconter la vie amoureuse de Beethoven tout de suite sur RTL. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Roll over Beethoven, tell
Tchaïkovski the news. RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Beethoven est mort il y a 190 ans. Il a laissé derrière lui des partitions, des morceaux que les musiciens du monde entier reprennent. Et notre invitée Elisabeth Brisson, écrivain, nous invite dans l'intimité de ce génie. Et puis c'est bien parce qu'avec vous, on fait tomber quelques clichés. Vous nous avez parlé de
On a écouté quand même un tout petit peu de Chuck Berry qui est mort il y a quelques jours, la semaine dernière. Chanter Roll Over Beethoven, c'est quand même drôle comment même un personnage comme Chuck Berry s'est réapproprié.
Vous voulez dire qu'il y a du Beethoven un peu en chacun de nous?
Je ne sais pas, mais
en tout
cas...
Et des musiciens sans doute.
Mais en tout cas, si vous n'avez pas entendu l'émission spéciale que George Lang a consacrée à Chuck Berry, vous pouvez la réécouter sur rtl.fr, c'était magnifique.
Vous nous avez parlé de ce génie sourd qui découvre sa surdité à 30 ans, mais qui a quand même continué à écrire des morceaux absolument incroyables parce qu'il entendait la musique dans sa tête, même s'il n'entendait pas la fureur du monde extérieur. Qu'est-ce qu'on sait de sa vie amoureuse, Elisabeth Brisson? Est-ce que c'était un homme qui plaisait aux femmes? Est-ce qu'il était beau, tiens, aussi?
Alors, ça dépend de pour qui.
Oui, mais il y a des sortes de canons de beauté, on va dire.
Alors, comme ça a été très controversé très peu de temps après sa mort, parce qu'on voulait en faire un saint, etc., qui n'avait jamais touché rien du tout, eh bien, il y a ses amis, auxquels très proches, qui disent on l'a toujours connu avec des relations amoureuses. Donc, il a toujours été amoureux. Alors, le problème, c'est qu'il ne s'est jamais marié. Alors, voilà.
Pas un problème, ou pas?
Oui, l'écart qu'il y a entre les amours qu'il avait et puis le fait qu'il ne se soit pas marié.
Ce qui, dans une bonne société protestante, pouvait peut-être poser problème, quand même.
Oui, mais là, c'était plutôt catholique.
D'accord, pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas en Allemagne, en fait.
Oui, mais à Vienne,
c'était
même
catholique.
À Bonn, c'était
d'accord.
Catholique.
Ah, d'accord.
Et alors, il a espéré se marier plusieurs fois. Et puis ça a échoué, en particulier avec Joséphine Brunschvicg. Et
alors, qui était-elle? Racontons son histoire.
Joséphine Brunschvicg, c'est une des sœurs Brunschvicg. Enfin, il y avait Charlotte et il y avait Thérèse, mais c'est pas Thérèse, tout le monde dit que c'est Thérèse. En fait, c'est Joséphine qui les a rencontrées, les jeunes filles, en 1799. Tout de suite, il a été amoureux de toutes. Il allait leur donner des leçons tous les jours. C'était formidable, il faisait de la musique. Il leur a écrit des variations, justement, en disant « Je pense à toi » sur un poème de Goethe. Et Joséphine était à Vienne, depuis la Hongrie, avec ses parents, pour être mariée. Pof, elle est mariée avec un monsieur beaucoup plus âgé qu'elle, qui était collectionneur d'automates d'ailleurs, puis il meurt. Donc elle était redisponible.
chouette que fait Beethoven.
Donc Beethoven revient, écrit d'autres variations, c'est ça.
Il lui donne des leçons.
Sur un poème de qui cette fois
Et alors c'est d'ailleurs au moment de ses relations avec Joséphine qu'il compose Fidelio, qui compose donc son opéra et avec la figure d'Éléonore. Mais Joséphine n'était pas aussi puissante que cette Léonore.
Il ne s'est rien passé entre eux alors, pour bien comprendre.
Il y a des lettres d'amour.
Des deux côtés.
Elle est un peu réticente. J'ai l'impression qu'elle était un peu réticente parce que lui devait être un peu trop pressant et qu'elle devait être un peu délicate. Bon, c'est moi qui interprète. Mais enfin, c'est elle qui s'éloigne et lui, il en est très malheureux. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir des affaires, comme on dit, pour d'autres musiciens. Je ne sais pas jusqu'où il va, hein. Mais il y a un épisode qui est lié à la Passionata. D'ailleurs, il y a la pianiste française qui s'appelle Marie Bigot, qui vient d'Alsace d'ailleurs, et qui joue tellement bien que Beethoven est tellement ravi qu'il lui propose une promenade en calèche. Oh, le mari, elle dit pas question. Il a fallu qu'on rompre tout de suite les relations de Beethoven avec Marie Bigot, mais il a eu le temps quand même de lui donner la partition, le manuscrit de la Passionata, qui se trouve à la Bibliothèque nationale de ce fait-là.
Qui est une déclaration d'amour, en fait.
Oui, parce qu'elle jouait tellement bien, elle avait réussi à le déchiffrer à vue, comme on dit, alors qu'il écrivait très très mal, donc il enthousiasme. Mais pof, le mari...
Oui, quand il y a le mari, là, c'est plus possible.
Bah oui, évidemment.
Alors ensuite, il y a eu une Thérèse en 1810, il demande à son ami Gleichenstein, tu vas m'acheter des bottes, un beau veston, enfin
Thérèse.
Veut me faire beau parce que Thérèse. Donc on pense que c'est d'ailleurs pour elle qu'il aurait écrit cette fameuse lettre à Élise parce qu'il voulait qu'elle apprenne le piano et il lui donnait des conseils de lecture aussi, lire Shakespeare, etc. Donc très pof. Et là
encore
aussi.
Encore un mari?
Là ça marche pas. Oui, elle va se marier avec quelqu'un d'autre et la famille ne veut pas de Beethoven en 1810. Et alors si on continue, il y a la fameuse.
Ah, mais oui, quand même, il y a une belle vie amoureuse.
La fameuse.
Giulietta.
Ah, mais j'ai pas parlé de Giulietta.
Ah, bah oui, parlons-en.
C'était la cousine de Joséphine. Et alors, vers 1802, eh bien, Giulietta, il semblerait qu'elle aurait peut-être pas dit non. Mais elle était très. Elle était très ambitieuse, je crois. Et finalement, elle a préféré un autre qui avait plus d'avenir.
Sauf qu'entre-temps, Beethoven lui écrit une petite chanson quand même,
non,
pour lui faire plaisir, un petit morceau. Claire de Lune, sonate numéro 14.
Mais c'est pas vrai. Il l'avait pas écrite pour elle, non. Il lui a dédié parce que c'était une façon de la remercier, mais il l'avait pas écrite.
C'était pour la séduire. Bon, on va l'écouter quand même, c'est un bel hommage à l'amour. Sonate numéro 14, Clair de Lune de Beethoven. Alors, ça, c'est vrai que c'est plutôt un morceau triste.
Oui.
On sent l'amour déçu.
Non, pas du tout.
En tout cas, on voudrait l'interpréter comme ça.
Oui, ça a été le...
Parce qu'ils nous appartiennent, ces morceaux, maintenant.
Oui.
C'est vrai, hein.
Le titre a été donné tout à fait posthume, Sonate au clair de lune, parce qu'elle avait, cette sonate, elle avait effectivement toutes sortes de caractéristiques de musique un peu funèbre, de musique triste. Hein. Donc, c'est bien après, c'est en 1850 qu'on a commencé à l'appeler Clair de lune.
Mais finalement, c'est une vie amoureuse assez triste, assez déçue que vous nous décrivez. C'est-à-dire, il ne s'est pas marié parce que les femmes ne souhaitaient pas rester près de lui.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire ça?
Alors là, il y a la fameuse lettre en juillet 1812 à lui, ce qu'on appelle l'immortel bien-aimé. Quelle est cette femme? En tout cas, c'est une lettre d'amour.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Vous y avez eu accès?
Oui, on l'a. Elle est à Bonne aussi. Elle est superbe. Un peu conventionnelle, quand même. Elle dit, t'es ma vie, mon amour, mon unique, etc. Mais on ne peut pas vivre ensemble.
Mais on ne sait pas qui elle est adressée. Comment c'est possible? Il n'y a pas d'entête?
Non.
Il n'y a pas de mots
doux? Elle est écrite avec le crayon que tu m'as donné. Écrite au crayon, donc intime. C'était pas le crayon que tu m'as donné. Et on ne sait pas qui. Et il y a beaucoup de candidates, comme disent les Allemands. Il y a beaucoup de candidates pour cette...
Encore une énigme à résoudre.
Il faut accepter alors de ne pas avoir les moyens de la résoudre. Mais il y en a beaucoup de musicologues qui veulent. Ils disent une telle, puis encore une autre. Et alors, tu penches pour qui? Tu penches pour...
entre souffrance et travail acharné. On va raconter dans un instant les dernières années de la vie de Beethoven. À tout de suite, les curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Beethoven est mort il y a 190 ans. On vous raconte le destin de ce musicien, de ce génie. Et il vous fait réagir, Didier, qui nous appelle de Saint-Germain-en-Laye. Je conseille à tout le monde d'écouter le concerto pour violon et orchestre. Pas besoin de connaître la musique pour l'apprécier. On a tous un cœur et des émotions. Ce concerto m'a poussé à devenir violoniste. Merci Didier pour cette réaction. C'est quoi votre morceau, votre composition de Beethoven préférée, Elisabeth Brisson? S'il faut choisir, c'est toujours très difficile de choisir.
Ce serait le 14e quatuor, je crois. Le 14e quatuor.
Alors, pour un quatuor, donc, ça veut dire qu'il y a quel instrument?
Il y a donc deux violons, un alto et un violoncelle. Beethoven est devenu le père du quatuor à cordes, même s'il a hérité ça de Mozart et de Haydn. Mm-hmm. Mais après les quatuors de Beethoven, les compositeurs, ils ont du mal à écrire des quatuors. C'est vraiment le summum.
C'est ce que j'allais vous demander quelle est la touche Beethoven, qu'est-ce qui fait que c'est un musicien différent d'un Mozart, d'un Haydn et de tant d'autres. C'est quoi tu raccordes par exemple, c'est une tonalité particulière?
Alors certains vous diraient luth mineur, mais il y a du luth mineur chez Mozart aussi, hein, donc c'est qu'il a sans arrêt et cherché à faire autrement. C'est-à-dire qu'il est à part quelques petits éléments de tombés dans des formules, mais toutes ses œuvres sont un renouvellement. Et il cherche du côté du sonore, du côté des combinaisons de timbres, du côté des rythmes, du côté de ce que ça... Et c'est jamais gratuit, c'est-à-dire c'est jamais pour combler des vides, hein, de discours musical. Il y a toujours... pour lui, du sens, mais pas du sens où il va l'intellectualiser, hein, mais la façon de mener l'organisation de son, j'aime pas dire discours, parce que justement c'est pas un discours, mais du parcours de sa musique, c'est à chaque fois c'est une façon de penser. Alors, pour dérouter les auditeurs, il y a le dernier quatuor, il ne savait pas que c'était son dernier quatuor, hein, sur lequel il va écrire ce fameux Musszein, vous n'avez jamais entendu parler. Alors que Beethoven n'était vraiment pas dans la musique représentative, hein, il n'était pas du tout dans la musique à programme.
Et bien c'est sûr, quoi la musique représentative à programme?
À programme, c'est-à-dire que la musique va illustrer une histoire.
D'accord.
Enfin, c'était vraiment pas Beethoven, justement. Beethoven, c'est de la musique, on pense par l'écriture musicale. Et il pense par l'écriture musicale, sauf dans ce dernier quatuor aussi, mais il déroute ceux qui l'embêtent, j'allais dire, parce qu'il met en tête de la partition « Est-ce que ça doit être ?» et il répond « Est-ce Musszein ?» Et c'est des motifs musicaux qu'il va combiner. Et ces motifs musicaux, ils sont issus du nom de Bach. Parce qu'en allemand et en anglais, le nom des notes, c'est par les lettres.
D'accord.
Donc quand vous mettez des B-A-C-H, vous avez des si bémol, la, do, si bécard.
Donc hein, il s'appuie là-dessus, sur le nom de Bach.
Oui, il n'est pas le premier, hein, Bach. Ouais. Il s'appuie sur cette combinaison pour faire des recherches, et c'est un noyau qui va être à l'origine de ses derniers quatuors.
Mais c'est un clin d'œil, c'est quoi?
Oui, mais c'est une façon d'élaborer du matériau musical.
Donc c'était un chercheur en fait, on peut dire ça comme ça aussi.
Et la grande fugue qui était tellement énorme comme finale du 13e quatuor, eh bien ses copains vont lui dire non, surtout tu publies pas parce que jamais on va t'écouter. Donc il a refait un final et cette grande fugue, eh bien elle est à partir de ce noyau. Mais c'est ouais.
Alors, faudrait pas qu'on parte dans quelque chose de trop technique, tonique, parce que moi, j'avoue, je suis pas mélomane et je m'y perds un petit peu. Non, non, mais c'est super. Demander... On sent votre passion dans tout ce que vous nous racontez. Mais quand vous dites ses amis lui déconseillent de le publier sous cette forme-là, parce que de son vivant, il était devenu une star de la musique, Beethoven, pour employer un terme d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ça?
De son vivant, c'était pas une star. Il a été star pendant le congrès de Vienne. Paradoxalement, parce qu'il faisait une musique qui était... Il avait composé une musique plutôt révolutionnaire. Hein. Mais pendant le congrès de Vienne, comme les empereurs, ils étaient contents d'avoir leur musicien allemand qui était de grande envergure, il fallait donc le mettre...
Donc ils l'ont mis en avant.
Mais par la suite, il a été plutôt mis sur la touche. Hein. C'était, les Viennois, ils préféraient Rossini, qui est de la très bonne musique aussi, mais qui était plutôt du divertissement.
Beethoven est mort il y a 190 ans, à 56 ans, c'est bien ça, oui. Elisabeth Brisson. Et il était de plus en plus sourd, il en a énormément souffert. On dit même qu'il a fait scier les pieds de ses pianos pour sentir les vibrations. Est-ce que ça, c'est une légende ?
Je ne sais pas.
En tout cas, ces dernières années ont été difficiles. Est-ce qu'il a continué à beaucoup créer ?
Ah oui, justement, il a créé ses derniers quatuors, la 9e symphonie. Et pour communiquer avec ses amis, parce qu'il aimait beaucoup discuter, il y avait des cahiers de conversation qui ont été partiellement conservé, parce qu'il y a celui qui a prétendu être l'héritier spirituel de Beethoven, qui s'appelle Schindler, qui il les a accaparés et il a gommé tout ce qui le gênait. Donc,
sur ses cahiers de conversation ? Parce qu'il n'entendait plus rien.
Non, il n'entendait plus rien. Alors, le cahier de conversation, c'est frustrant parce que c'est comme une conversation téléphonique. Il y a lui, ce qu'il dit, on n'entend pas, mais il y a les questions de ceux avec lesquels il parle.
Alors, imaginez cette 9e symphonie que Beethoven compose dans sa tête. Elisabeth Brisson, je rappelle que vous publiez Beethoven aux éditions Ellipse. Ces toutes dernières années, on dit qu'elles sont aussi marquées par de la piété et par la composition de grandes messes.
Avant la 9e symphonie, il a composé une énorme messe qui s'appelle la Missa Solemnis pour l'intronisation de son patron archevêque. Mais ce n'est pas de la piété, au contraire.
C'était une commande ?
Pas du tout. Non, il a fait ça pour avoir une place peut-être auprès de l'archiduc Rodolphe et l'archiduc archevêque, mais il était pris par ce qu'il composait. Et souvent il disait dans quelques mois je vous donne l'œuvre, et puis en fait il a eu un emballement, beaucoup de ses œuvres, c'est un emballement dans la composition.
Mais est-ce qu'il était critiqué, ou bien reçu par la critique rapidement?
Non, il était pas bien reçu par la critique, et certains ont dit mais c'est du terrorisme musical pour la sonate à Kreutzer. Et il était considéré comme trop compliqué.
Vous écoutez RTL.